car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ayant dit plus haut, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, et tu n'y as pas pris plaisir, lesquels sont offerts selon la loi. Alors il dit, voici, je viens, pour faire ta volonté. Il ôte le premier afin d'établir le second. C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Et tout sacrificateur se tient debout chaque jour en faisant le service, et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Et l'Esprit Saint aussi nous en rend témoignage, car après avoir dit, c'est ici l'alliance que j'établirai pour eux après ces jours-là, dit le Seigneur, en mettant mes lois dans leur cœur, je les écrirai aussi sur leurs entendements. Il dit, et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a rémission de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ayons donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints, par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure.
Nous avons donc parlé de la valeur inestimable et du sang et de Christ, de l'œuvre et de la croix. Valeur fondée sur l'excellence même de la personne qui s'est offerte ainsi en sacrifice. Ce sang qui a fait l'expiation, ce sang par lequel une rédemption éternelle a été obtenue, ce sang porté dans le sanctuaire par Jésus lui-même constitué grand souverain sacrificateur, ce sang qui est le moyen par lequel des hommes sont amenés à Dieu, peuvent s'approcher, selon une expression que nous avons retrouvée à deux reprises au moins dans ce que nous venons de lire, ce sont à devant Dieu et pour Dieu seul finalement toute sa valeur, toute cette excellence. Mais alors l'application en est faite à ceux qui par la foi s'approchent, et c'est le sujet plus particulièrement du chapitre 10, bien que la question ait déjà été abordée dans le chapitre précédent. C'est ce qui est propre à la nouvelle alliance, mais qu'il est plus encore à cette période dans laquelle nous sommes et qui est celle où le grand sacrificateur est dans le ciel, caché aux yeux de ce monde, et s'occupons de ceux qui précisément s'approchent par la foi, sont sanctifiés, ceux qui sont au bénéfice de ce sang, non seulement pour leur salut, mais pour les bénédictions qui leur sont données par le moyen même de ce grand sacrificateur et en vertu de son intercession, fondée elle-même sur l'œuvre accomplie. C'est ce qu'il y a de caractéristique pour la période actuelle, période de l'appel céleste. Ceux qui sont appelés le sont pour le ciel, et ils sont en relation avec celui qui est dans le ciel, dans le sanctuaire. Chapitre 10 se termine par ce magnifique verset 28 que nous considérions en dernier lieu, bien sûr, hier, et qui, après avoir rappelé ce qui est réservé aux hommes en tant qu'enfants d'Adam, en tant que pécheurs, savoir la mort et par-delà la mort le jugement, rappelle que Christ a été offert une fois pour toutes, offert pour le péché, pour porter les péchés de plusieurs, pour porter effectivement les péchés de ceux qui s'approchent de Dieu par lui, et qui, une seconde fois, apparaîtra, reviendra, et sans qu'il soit question de péché désormais, à salut pour ceux qui l'attendent, les délivrant de tout ce qui rappelait ou tout ce qui appartenait encore à leur condition précédente, c'est-à-dire leur corps, de sorte que toute trace, tout vestige, toute trace des conséquences quelconques que ce soit du péché n'existeront plus. Et alors seront, lorsque Christ reviendra de la sorte, prenant les siens avec lui, apparaissant ensuite en gloire et avec eux, et établissant sur la terre un règne de bonheur et de paix par la destruction des ennemis et l'établissement de sa domination, prélude aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, alors seront répandues les bénédictions sur la terre, sur un peuple nouveau, le peuple terrestre renouvelé, les nations étant bénies en lui, les bénédictions appartenant à la nouvelle alliance. Et tout ce que le Christ devait apporter, tout ce que le Messie devait donner à son peuple et en son peuple, à tout le monde, s'il avait été reçu la première fois. Mais il n'a pas été reçu, il n'a pas été rejeté. Alors, ces bénédictions sont reportées à l'avenir, c'est ce que nous avons trouvé dans le chapitre précédent, indiqué par l'expression sur laquelle nous ne sommes guère arrêtés, mais que tout le monde comprend, des biens à venir, sacrificateurs des biens à venir. Et nous retrouvons ici, au début de ce chapitre 10, cette expression, les biens à venir, des bénédictions qui sont encore futures. Ainsi, il y a dans le passé l'œuvre accomplie, l'œuvre parfaite, le sang répondant à tout. Il y a dans l'avenir, et c'est l'objet de l'attente de ceux qui appartiennent à Christ maintenant, son retour. Il apparaîtra un salut à ceux qui l'attendent. Alors, entre les deux, il y a, eh bien, il y a le christianisme. Il y a le christianisme. La période de l'Église, si l'on veut, mais elle n'est pas proprement en vue, comme on l'a rappelé dans l'Épître aux Hébreux. Il y a tous les temps du christianisme, les temps auxquels nous appartenons, et qui représentent une grande parenthèse dans le déroulement des voies de Dieu à l'égard de la terre. Et tout ce qui fait l'objet des prophéties, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, prophéties qui auront leur plein accomplissement. Actuellement, c'est entre des croyants mis à part sur la terre, étrangers ici-bas, traversant ce monde comme un désert, et le ciel pour lequel ils sont appelés, et que des relations sont établies. Établies sur la base du sang versé et de la part de ceux qui attendent le Seigneur sur le principe de la foi. Ce sont les croyants. Telle est notre part présente. Entre l'œuvre de Christ et son retour en gloire, et il y a le christianisme. Et les chrétiens sont appelés à saisir là, non seulement à l'avance, les bénédictions des biens à venir, pour en jouir déjà par l'avance, mais plus que cela, les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, c'est ce que nous présenterait l'Épître aux Éphésiens. Mais il nous suffit de dire, ils sont appelés à saisir cette réalité et qu'ils ont l'entrée dans le sanctuaire même. Là, les exhortations finales qui nous ont été lues à partir du verset 19. Et d'y jouir là de la personne même de Jésus, de celui qui est entré là comme notre précurseur, mais qui est l'objet de la foi elle-même et de Dieu lui-même, connu comme Père, et trouvons, lui, sa pleine satisfaction en Christ et dans ceux que Christ lui présente. C'est ce qui a été exprimé dans le chapitre précédent quand il est dit que il paraît maintenant pour nous devant la face de Dieu. Mais s'il en est ainsi, on comprend que il faut bien que soit établi dans une pleine sécurité, une pleine certitude, une pleine assurance, ceux qui sont appelés ainsi à s'approcher. Ce que la loi ne pouvait pas donner, ce que le système judaïque ne pouvait pas donner, bien qu'il y eût là l'ombre des choses à venir, mais non pas l'image même des choses, rien de précis, rien que des choses indistinctes, seulement la certitude que un jour il y aurait les réalités. Quand il y a une ombre, c'est que il y a un corps qui projette une ombre, et que par-delà ce corps, il y a la lumière. Eh bien, la loi n'avait pas pu donner de certitude, pas donner d'assurance. Elle ne pouvait pas donner la conscience tranquille devant Dieu. Et c'est le premier point que nous trouvons dans ce chapitre 10, c'est cette question de n'avoir plus aucune conscience de péché. Jamais, sous la loi, des croyants n'ont pu avoir, dans une pleine et entière certitude, cet état de conscience sans aucune frayeur du jugement de Dieu. Des croyants ont pu anticiper cela dans une mesure, mais cela restait le domaine des ombres. Tandis que maintenant, quant au jugement du péché, et quant à Dieu connu comme juge du péché, quant au péché pesant sur la conscience et faisant peur à l'homme, donnant à l'homme la terreur, la frayeur de Dieu, la crainte d'Adam lorsque la conscience fraîchement acquise a parlé pour la première fois. Lorsque Dieu s'approchait, l'homme s'est enfui. J'ai eu peur et je me suis caché. Que cette peur soit ôtée la conscience. Voilà ce que c'est que n'avoir plus conscience de péché. C'est le premier point que nous avons ici. Et ensuite, nous avons l'établissement de cette assurance, de cette sécurité, de cette certitude, l'assurance que on peut s'approcher de Dieu, fondée premièrement sur la volonté éternel de Dieu, volonté que Christ est venu accomplir ici-bas. C'est ce que nous avons depuis le verset 5 jusqu'au verset 10. Ensuite, fondé sur la perfection de l'œuvre de Christ, dont le fait qu'il est assis dans les lieux saints donne la certitude vient attester, et c'est ce que nous avons du verset 11 au verset 14. La volonté de Dieu, par la volonté de Dieu, nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Voilà ce qu'on a trouvé déjà premièrement au verset 10. Ensuite, au verset 14, par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Et en troisième lieu, vient le témoignage rendu par le Saint-Esprit lui-même, et que Dieu ne se souviendra plus jamais de leurs péchés et de leurs iniquités. Il y a rémission de ces choses, il n'y a donc plus d'offrande pour le péché, il y a seulement pour nous à considérer la sainte, la parfaite, la divine offrande de Christ lui-même. Volonté de Dieu parfaite, œuvre de Christ parfaite, témoignage du Saint-Esprit parfait, voilà ce qui établit l'heureuse condition dans laquelle maintenant les croyants se trouvent placés, n'avoir plus de conscience des péchés.
D'entre nous, la loi est loin d'avoir tenu la place qu'elle tenait chez un juif. Nous pourrions même dire que dans l'ensemble, elle ne nous a guère préoccupés. La loi a donné l'occasion de la manifestation de la transgression et par cela l'état réel du cœur de ceux qui étaient sous la loi, de la nature humaine sous le régime de la loi. Mais la sphère du péché est plus large que la sphère à laquelle s'appliquait le régime de la loi. La sphère du péché embrasse c'est toute l'humanité. La loi a été une mise à l'épreuve d'une portion de cette humanité pour mettre d'une façon particulière en évidence ce qui bouillonne dans le cœur d'un homme. Mais la conscience est antérieure à la loi. Elle est postérieure à la loi. La conscience est le fait universel, caractéristique de l'homme déchu. C'est pourquoi tout ce qui est dit là garde toute sa force pour nous qui n'avons jamais été sous la loi, sous son régime. Nous avons pu nous en faire une. Et même certains ont pu être placés sous un christianisme auquel on donnait ce caractère légal. Après tout, cela n'a pas beaucoup d'importance. Car ce que ces passages traitent à fond, ce n'est pas la question de l'état de l'homme sous diverses dispensations, quoi que cela soit vrai, mais ce que ces passages traitent à fond, c'est la condition de l'homme en tout temps, depuis Adam et Ève jusqu'à la fin. C'est définitif, décisif, complet. Et au centre de toutes ces instructions, nous voyons se dégage ainsi ce fait incomparable que nous avons souligné tous ces jours-ci et que dont nous ne retiendrons jamais assez l'importance au-dedans de nos âmes, que pour arracher l'humanité à cette misère dont la source paraissait être un acte qui aux yeux de beaucoup semble insignifiant, il n'y avait que le sang de l'agneau préconnu dès avant la fondation du monde. Les conseils de Dieu étaient antérieurs à toute l'histoire de l'homme. Mais nous insistons plutôt sur ceci. Ne pensons pas que parce que nous ne sommes pas, n'ont pas été sous le régime de la loi, ces passages ne s'appliquent pas à nous. Ils s'y appliquent car nous sommes, par la loi elle-même, n'est pas en évidence la profondeur du mal qu'il y a dans l'homme. Elle ne l'avait pas entièrement en évidence. On trouve cette manifestation dans tous les hommes. Dans la présence de Dieu, nous reconnaissons que tout ce que la loi, la manière dont la loi condamne l'homme, nous reconnaissons que le portrait qu'elle nous donne de l'homme est tout à fait le nôtre. Bien que nous n'ayons jamais été sous les 10 commandements. Dieu traite là la question de la vérité éternelle, la question du règlement éternel et divin, du bien et du mal. L'homme est avant tout un être moral et, répétons-le, sa faculté supérieure, c'est la conscience. Ce qu'il y a de solennel, c'est que la conscience qu'il a acquise, il l'a acquise par la chute. C'est la conscience d'un homme qui a failli. Et si la misère est entrée dans le monde par la chute d'un homme, c'est par l'entrée dans le monde d'un homme que la réponse à toutes les questions que soulève la présence du péché dans le monde devrait être donnée. À la gloire de Dieu d'abord, et ensuite, pour que la réponse de Dieu au péché de l'homme ne se réduise pas tout simplement à un jugement total, universel et éternel.
Que l'un des résultats de l'action de la conscience, lorsqu'elle parle, lorsqu'elle se trouve réveillée ou simplement lorsque elle exerce sa fonction normale et qu'il y a une conscience du mal, c'est que l'homme cherche. Il ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Il a peur de Dieu, peur de la mort, peur du jugement, même si cela est indistinct chez lui. Mais il va chercher alors quelque chose à faire, quelque chose à offrir. C'est ce que nous voyons immédiatement après la chute avec Caïn. On vient apporter quelque chose à Dieu. Alors, la loi est venue pour dire « Ah, tu veux m'apporter quelque chose. Voilà ce que je demande. Voilà ce qui serait agréable à mes yeux. Et si tu offres cela, et il ne s'agit pas seulement de choses extérieures, mais de tout un ensemble moral, résumé par les 10 commandements, fais cela et tu vivras. C'est dans ce sens, comme on l'a dit souvent, que l'expérience de l'homme a été faite par la loi, dans le temps de la loi, et il a été prouvé que l'homme était incapable d'offrir comme Dieu le demandait les offrandes qui pouvait être agréé, que tout était insuffisant, que sans loi, comme sous la loi, l'homme n'atteignait pas à la gloire de Dieu. Et alors, il faut autre chose, il faut Dieu ne demandant plus à l'homme, celui-ci ne peut rien donner, mais Dieu intervenant et lui donnant le moyen de salut, lui donnant un sauveur, et c'est l'œuvre de la croix, c'est la venue de Christ et c'est l'œuvre de la croix. Et ainsi, comme il vient de nous être rappelé, et le cadre de la loi est infiniment dépassé, et dans le passé, comme dans l'avenir, et les choses sont présentées ici, remontant jusqu'à une volonté éternelle de Dieu, au dessein de Dieu antérieur à la loi, antérieur à la chute de l'homme, antérieur à la création de l'homme. Dieu est dans l'infini de ses conseils, et nous avons en toute sa grandeur la volonté divine qui était une volonté d'amour, d'un amour qui voulait se manifester envers des pécheurs avant même que ceux-ci fussent apparus sur la scène.
Une merveilleuse beauté. Et cela nous amène à nous prosterner devant celui dont les conseils datent de tout temps. Il y a cette pensée qui intervient, mais Dieu avait donné la loi. Dieu avait prescrit chaque année, dans le grand jour des expiations dont nous nous sommes entretenus ces journées passées, Dieu avait donné un merveilleux aperçu de ce que seraient ses conseils, en même temps qu'il instituait, selon son cœur, un moyen de supporter les péchés précédents dans sa patience. Et ces croyants hébreux, dont nous savons bien, par la suite même du chapitre, qu'ils couraient un danger, s'accrocher à ce qui n'a que l'ombre des biens à venir. Dire, mais enfin, nous faisons ce que Dieu nous a demandé. Et dans le grand jour des propitiations, nous offrons les victimes. Dieu peut-il demander davantage? Or, Dieu demandait davantage. Et l'affirmation du Saint-Esprit ici est que, au lieu d'être des sacrifices propitiatoires, la figure, ce qui se passait au temps des ombres, n'était qu'un acte remettant le péché en mémoire, des actes remémoratifs de péché. Il s'agit bien du grand jour des expiations. Il dit, il y a dans ces sacrifices chaque année. C'était le renouvellement, selon les ordonnances divines, d'un rite dont les détails nous ont été, les grandes lignes nous ont été rappelées hier. Et à l'inverse de ce qu'aurait souhaité la conscience, pour Dieu, le seul sacrifice qui pouvait amener l'abolition du péché et le pardon des péchés,
c'était le sacrifice du Christ. Mais dans chacune de ces journées, où année après année, on faisait ce que Dieu avait demandé, la conséquence n'était pas une conscience rendue parfaite. Tout au contraire. Et il me souvient d'une méditation du cher monsieur Rossier sur ce remarquable début du chapitre 10e. Et nous le voyons encore, nous dépeignons cette montagne de péché qui, année après année, allait montant jusqu'au ciel, pas un seul péché oublié, un acte remémoratif de péché. La conscience du juif pieux, qui avait pu dans une certaine mesure être apaisée par le fait que ce que Dieu avait prescrit, on l'avait exécuté. Cette conscience, dans ce jour-là, non seulement elle parlait au cœur des péchés écoulés pendant l'année qui venait d'être parcourue, mais le reste, tout ce qui avait été accumulé de péchés et de transgressions, demeurait et remontait en mémoire. On a dit souvent que une bonne conscience, c'est surtout une mauvaise mémoire. L'expression est juste sur un plan humain. Et nous le réalisons pour nous-mêmes. Prenons garde de passer légèrement sur ce qui n'a pas été vraiment confessé et pardonné, dans le sens du rétablissement de la communion. Mais pour ce juif-là, ce n'était qu'un acte remémoratif de péché, et la conscience n'était pas rendue parfaite. Le verset fin du verset premier, elle ne peut pas, la loi, rendre parfait ceux qui s'approchent. Parfait dans le sens que maintenant nous saisissons à la lumière de ces chapitres, une conscience purifiée, le sentiment que Dieu ne se souviendra plus jamais de nos péchés ni de nos iniquités. Alors le contraste est saisissant. D'une part, ce qui allait être l'épreuve de l'homme pendant tous ces siècles, qui ont été consommés avec les autres dans le jour où Christ s'est offert lui-même en la consommation des siècles, sous ce siècle de la loi comme sous les siècles précédents, en contraste avec tout ce qui n'avait eu comme effet que d'accuser l'homme, de le rendre conscient de sa détresse, de sa misère spirituelle. Voilà que maintenant, Dieu, comme on vient de nous le dire, le Saint-Esprit évoque ce qui fut le conseil du Saint. Ce merveilleux dialogue, plus exactement la réponse que le Christ donnait à la pensée profonde de Dieu, lui-même, reportant à Dieu ce qu'il savait être sa volonté, à laquelle il voulait être entièrement soumis, et le corps qui fut pour lui un corps d'abaissement, envoyé en ressemblance de chair de péché pour le péché, il ne dit pas, comme l'exprimerait Philippiens 2, il s'est anéanti lui-même, de Dieu se faisant homme, mais il reporte tout à celui dont il allait accomplir en perfection la sainte volonté. Tu m'as formé un corps.
Il est solennel aussi. Et nécessaire de remonter jusqu'à l'origine du mal dans le monde. Dieu avait déclaré, avait annoncé que la mort serait la sanction de la désobéissance. Ce que toute l'histoire prouve. Cela rend aussi, cela nous donne à réfléchir sur la gravité de la faute de Caïn. L'état d'esprit de Caïn s'est répété à l'infini au cours des âges. Et sommes aussi, et par notre lecture, amenés à nous arrêter devant ce fait solennel, merveilleux de l'incarnation. Les meilleurs enseignements que Dieu pouvait donner, et ils étaient toujours tous parfaits, ne pouvaient pas répondre à la question posée par la désobéissance d'Ève et d'Adam. La loi ou d'autres enseignements. Et nous voyons dans l'histoire du peuple d'Israël, nous entendons bien la voix de conscience allant plus haut que la loi. David disant quelque part qu'il reconnaissait que dès sa naissance même, il était un pécheur. Combien il est utile de nous placer devant ce que Dieu dit, si nous voulons voir les choses sous leur vrai jour. Et alors cette incarnation, il est bien sérieux de voir répéter ce mot, le corps de Christ, son corps, l'incarnation, sa venue comme homme, un homme, un vrai homme. L'incarnation dont l'importance a été dépassée, ou en tout cas égalée, que par l'expiation. Puissions-nous nous arrêter devant tout cela en pensant toujours aux exigences de la gloire de Dieu, d'un Dieu que nous connaissons maintenant, et qui ne nous effraie pas parce que la paix a été faite justement par ce sang de la croix. Nous ne parlons pas ici encore de ce qui a dû être fait en nous pour que nous bénéficions de l'œuvre de la rédemption. Ne perdons pas non plus ceci de vue.
Question qui se pose devant tous ici, mais plus précisément, plus particulièrement, pour tous ceux qui croient véritablement en Christ, qu'ils reconnaissent comme celui qui est venu pour nous sauver. Avons-nous réalisé? Comprenons-nous, recevons-nous pour nous-mêmes ce que c'est que d'être sans conscience de péché. Il faut un travail intérieur, il vient d'y être fait allusion. Mais ce qui importe, et c'est ce qui est placé devant nous ici, c'est de voir quelle est la pensée de Dieu. Et qu'est-ce qui, aux yeux de Dieu, pour Dieu, peut faire et fait que des hommes s'approchent et dont Dieu peut dire « Je les vois parfaits. Ils n'ont rien à craindre de mon jugement. » Car c'est cela, la conscience purifiée des péchés. Non pas que nous ne soyons pas pécheurs, non pas que nous n'ayons pas commis de péché, non pas que nous ne soyons pas capables de commettre maintenant des péchés, même croyants, même ayant été rendus parfaits devant Dieu, mais avoir la conscience purifiée par le sang de Christ, par l'aspersion de son sang, avoir compris et reçu qu'il a porté la peine de nos péchés, qu'il a fait l'expiation de nos péchés, et que la peine, le jugement mérité par nos péchés ne peut plus être demandé. Et que si maintenant nous avons affaire avec Dieu, ce n'est plus comme avec un Dieu juge des péchés, avec dans ma main, pour ainsi dire, le jugement éternel. Et cela est passé pour nous, et cela nous invite, cela nous amène à méditer sur les souffrances de la croix, sur l'œuvre et la signification de l'expiation. Que nous ayons affaire maintenant avec les manquements, nos manquements, si quelqu'un pèche, nous sommes enclins sans cesse à cela. C'est une autre chose, c'est une réalité aussi, mais nous avons affaire alors, nous y revenons, cela a été dit à plusieurs reprises, et je pense que tout le monde est au clair là-dessus, et nous avons affaire à un gouvernement de Dieu pour notre vie terrestre, pour notre service, pour le témoignage que nous avons à rendre, pour la façon dont se comporte ici-bas un enfant de Dieu. Nous avons affaire au gouvernement de Dieu, à une discipline paternelle, et le péché n'en est pas moins horrible, au contraire, l'enfant de Dieu est amené à voir le péché sous un jour infiniment plus odieux que l'inconverti, et que même celui dont la conscience est travaillée, qui n'est pas encore délivré, mais voir que lorsque nous manquons, lorsque nous péchons, nous affectons celui dont l'amour a été pour nous jusqu'au sacrifice de la croix. Mais cela ne touche en rien à la position devant Dieu, rendu parfait, l'expression est forte, premier verset. Les juifs ne pouvaient pas, c'est-à-dire même les plus pieux, être rendus parfaits. Ceux qui s'approchent, ceux que Dieu a appelés à s'approcher, de sorte qu'ils n'étaient jamais rendus parfaitement propres à s'approcher de Dieu. Le terme de parfait ici, rendre parfait, c'est exactement le même terme qui est employé à d'autres reprises dans cette épître aux Hébreux, le terme de être consommé. Le chef de notre salut qui a été consommé par des souffrances, chapitre 2, c'est être rendu propre à accomplir un office, un service, ici s'approcher. pas de prétention. Ce n'est pas de l'orgueil spirituel que de s'approprier ce que nous dit la parole. Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, rendus parfaits à perpétuité par l'œuvre de Christ, sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. C'est la simple obéissance de la foi, c'est la véritable humilité, c'est recevoir de Dieu ce qu'il a dit, c'est ne pas mettre en doute le témoignage du Saint-Esprit. C'est exactement l'opposé de l'esprit de Caïn qui a été rappelé déjà plusieurs reprises. C'est l'état d'esprit et c'est le comportement d'Abel en reconnaissant qu'il ne pouvait s'approcher de Dieu qu'en vertu de ce sacrifice sanglant, une vie offerte pour la sienne, et nous aussi. Et ce que Abel ne faisait qu'en figure pour nous, c'est devenu la réalité, en reconnaître que nous étions si loin, que nous étions si coupables, si souillés, perdus d'une telle manière, irrémédiable pour nous, irrémissible pour nous, qu'il fallait, il ne fallait rien moins que cette sainte victime, le Fils de Dieu devenu un homme sur la terre, afin de souffrir et de mourir pour nous.
Parce que nous ne pouvons, en méditant ces choses, et en nous adressant à ceux qui n'ont pas encore le sentiment d'une conscience purifiée, nous ne pouvons que vous dire, mais croyez. C'est le Saint-Esprit qui peut appliquer cette parole à vos cœurs. Dieu lui-même poursuive en vous cette œuvre de délivrance, mais la foi du petit enfant, c'est celle qui reçoit, comme une vérité divine, cette parole qui libère. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Cette parole qui nous dit, mais maintenant, je vous vois en Christ. Maintenant, vous êtes en lui, sous mon regard. Il paraît pour vous devant la face de Dieu. C'est la foi toute simple, mais c'est la foi dans son essence même comme un don de Dieu. La foi qui fait que la parole de Dieu prend par l'Esprit de Dieu possession de notre âme et en chasse à jamais toute crainte.
Une conscience délicate. Avoir une conscience délicate est un fait très important pour la vie du croyant. Cela correspond à une conscience délicate, c'est avoir le sentiment du bien et du mal d'une façon plus aiguë, plus profonde. Excellente chose. Parce que Dieu connaît tout ce qui se passe et Il trace une séparation absolue entre le bien et le mal, et c'est selon lui, c'est en rapport avec lui que les choses doivent être appréciées, en tout cas qu'il peut nous aider à le faire. Mais une fois que on a la vraie foi, quand on a reçu la vraie foi, Dieu ne nous demande pas, pour y arriver, d'avoir fait le compte de nos propres péchés, comme on vous le disait tout à l'heure, personne au monde ne pourrait le faire. Et Dieu le fait, s'en est chargé. Il le sait. Il sait toute l'histoire de la vie d'un homme. Non seulement ses démarches extérieures, mais toute la vie de son âme, de son cœur, sa conscience, tout. Et le Seigneur a dû, sur la croix, se tenir devant Dieu pour le règlement de tout cela. Cette considération devrait nous rendre beaucoup plus graves, beaucoup plus reconnaissants, et nous inciter à nous méfier de nous-mêmes d'une façon beaucoup plus stricte, et du monde aussi. Dieu n'a passé sur rien. Dieu ne pouvait passer sur rien. Lorsque Christ s'est présenté, il a dû être frappé pour tout, toute chose, aussi bien les crimes que une pensée légère. Mais quand est-ce qu'une âme entre dans cette position d'une sécurité légitime? Quand elle reçoit la foi, c'est-à-dire par l'opération de l'Esprit en elle. Et alors cette âme a un témoignage divin, comme on l'a dans le texte, comme cela nous a été dit. Et comment voulez-vous qu'un homme qui a Christ dans son cœur puisse être troublé, puisse attendre un autre témoignage? C'est le témoignage du Saint-Esprit. Un homme qui a Christ dans son cœur, dans la mesure où il réalise cela, il n'a pas de trouble de conscience, il n'a pas de trouble, il est en paix avec Dieu et il jouit du fruit du travail de Christ, du sacrifice de Christ, quant à sa conscience qui est parfaitement en paix. Nous avons ce privilège merveilleux de pouvoir avoir Dieu en nous comme nous l'aurons dans le ciel. Il n'y a pas de raison pour ne pas l'avoir autant. Ce serait l'état normal pour le croyant. Et quand des questions se posent quelquefois chez des saints, c'est toujours que Christ qu'ils ont abandonné dans une mesure Christ. Donc quand le cœur est rempli de Christ, il n'y a pas de question. Et c'est la meilleure réponse à toute la grâce de Dieu qui a fait ses merveilles à l'égard de la chose la plus affreuse qui soit, c'est-à-dire le péché. Quelqu'un disait, écrit quelque part, quand vous voyez un homme qui, avec un criminel, quand vous le voyez sortir de prison et se promener avec son juge, vous pouvez être sûr qu'il a été pardonné.
Présenté sous trois aspects différents, ce que nous lisons maintenant nous montre cette position parfaite du croyant devant Dieu en Christ, position qui ne peut être accordée, qui ne pouvait être accordée que par la pure grâce de Dieu et par le seul sacrifice du Seigneur Jésus. La loi, nous l'avons lu, avec tous les sacrifices qu'elle prescrivait, ne pouvait pas rendre parfait qui que ce soit en Israël. Les sacrifices ne pouvaient pas rendre parfaits ceux qui s'approchaient de Dieu. La loi était parfaitement impuissante. Seul le sacrifice de Christ peut rendre parfait, peut accorder une position parfaite à celui qui met sa confiance totale dans le Seigneur. Nous venons d'entendre l'appel de tout à l'heure. Ce qui est demandé de l'homme, c'est qu'il croit. S'il croit au Seigneur Jésus, s'il met sa totale confiance dans la grâce pleinement suffisante de Dieu, alors il pourra connaître ce qu'est cette position parfaite du croyant devant Dieu en Christ. Nous avons au début de notre lecture cette incapacité de la loi à rendre parfait qui que ce soit, mais dans le verset déjà rappelé, alors au verset 14, nous avons cette parole merveilleuse. Par une seule offrande, il a rendu parfait à
perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Il n'y a aucune prétention chez le croyant quand il parle de sa position parfaite devant Dieu en Christ. Il n'y a pas la moindre prétention parce qu'il sait très bien que lui-même n'y est pour rien. Il sait très bien qu'il doit tout, absolument tout, à la pure grâce et à l'entière miséricorde de Dieu. Il y a une conséquence pratique pour nous, chers amis, maintenant, c'est que nous soyons davantage conscients de la perfection de cette position, de notre position devant Dieu en Christ. Et c'était à cela que l'apôtre Paul s'appliquait. Il dit lui-même qu'il travaillait à cela. La fin de Colossiens 1 nous le dit clairement. Il dit ceci, « Christ, lequel nous annonçons, Colossiens 1, verset 28, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous présentions tout homme parfait en Christ. » C'était là l'un des buts merveilleux du ministère de l'apôtre Paul, de rendre conscient et toujours plus conscient tout homme, tout croyant, de la perfection de sa position en Christ devant Dieu. Et nous avons besoin d'être davantage conscients de cette position parfaite. Il faut pas s'imaginer que pendant longtemps, au cours de l'histoire de l'Église, on a été au clair à cet égard. Très rapidement, cette vérité pourtant fondamentale a été perdue de vue, a été abandonnée. Et l'on peut dire que lors de l'œuvre certainement magnifique de la Réformation, une telle vérité a été pratiquement méconnue, ou en tout cas pas comprise. Et on peut le dire également, c'est certainement le résultat de l'une des manifestations du Saint-Esprit au siècle dernier, de remettre en lumière une vérité si importante. Pas seulement le salut par la foi en l'œuvre parfaite de Christ, mais cette conscience de la perfection de la position du croyant devant Dieu en Christ. Nous avons donc ce premier point de vue de la perfection dans l'Épître aux Hébreux, selon notre chapitre 10. Il y a comme conséquence pratique un second point de vue présenté dans cette même Épître aux Hébreux, et nous l'avons au chapitre 5, et du reste, les frères, en parlant de la conscience, nous ont rendu déjà attentifs à cela. À la fin du chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, il nous est dit ceci au verset 14, le dernier, « La nourriture solide est pour les hommes faits ou parfaits. » Il ne faut pas l'oublier que souvent dans les Épîtres, cette expression « homme fait » est exactement l'équivalent de cette autre expression « homme parfait ». La nourriture solide est pour les hommes faits qui, par le fait de l'habitude, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. C'est pourquoi avançons vers l'état d'homme fait. Il y a donc une perfection pratique à laquelle nous avons à tendre. L'Ancien Testament parlait déjà de cette perfection. Est-ce que l'Éternel n'a pas dit à Abraham, au chapitre 17 de la Genèse, « Marche devant ma face et sois parfait. » Abraham déjà est appelé à marcher d'une manière qui soit en rapport avec l'appel dont il avait été appelé et les bénédictions dont il était béni. « Marche devant ma face et sois parfait. » La loi elle-même disait au chapitre 18 du Deutéronome, au verset 13, « Tu seras parfait avec l'Éternel ton Dieu. » Tu seras parfait. Mais une telle déclaration, d'emblée, met en évidence l'incapacité totale de l'homme de réaliser une telle ordonnance, de réaliser une telle perfection pratique. Par la grâce de Dieu, par la foi en la toute-puissance de cette grâce, le croyant est rendu capable de tendre vers cette perfection pratique. L'homme parfait, par le fait de l'habitude, a les sens exercés à discerner le bien et le mal, discerner le bien pour le faire et y abonder, discerner le mal pour l'éviter et le fuir. Et ainsi nous sommes amenés à avancer vers cet état d'homme fait, comme il est dit dans la note, vers la perfection. C'est là la perfection pratique, mais sachons-le, chers amis, que ce n'est que dans la pure grâce de Dieu que nous recevrons toute ressource pour pouvoir tendre vers cette perfection. Et enfin, troisième point de vue que nous trouvons également dans l'Épître aux Hébreux, une perfection à venir, une perfection atteinte dans l'éternité, quand nous serons auprès du Seigneur Jésus. Nous l'avons à la fin du chapitre 11, quand il est parlé des saints de l'Ancien Testament, il est dit ceci, que tous ceux-ci, verset 39, ayant reçu le témoignage par la foi, ayant reçu témoignage par la foi, n'ont pas reçu ce qui avait été promis. Dieu ayant eu en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas à la perfection sans nous. Et ainsi, tous les croyants, de quelque économie que ce soit, parviendront, par la pure grâce et la pure miséricorde de Dieu, à cette perfection, la perfection dans l'éternité, quand nous serons rendus absolument conformes à l'image du Seigneur Jésus lui-même. Il y a donc cette perfection qui nous a été assurée par l'œuvre parfaite de Christ. Notre position, la position de quel croyant que ce soit, est parfaite devant Dieu en Christ. Il y a maintenant cette perfection pratique à laquelle nous devons tendre, et le Seigneur Jésus déjà pouvait dire, vous donc, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, ce qui, dans l'Évangile selon Luc, est interprété par ces mots, vous donc, soyez miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricordieux. Nous avons à réaliser cette miséricorde, selon l'exemple parfait que nous avons en Dieu lui-même. Et enfin, cette perfection dans l'éternité, après laquelle tout certainement nous soupirons et que nous atteindrons certainement.
Pourrions chanter le cantique 118.
Possession de la perfection, c'est ce qui est résumé dans le dernier mot, ou dans l'un des derniers mots du chapitre précédent, n'est-ce pas? C'est le grand salut. C'est le salut qui est devant nous. Quand il apparaîtra sans péché, à salut, à ceux qui l'attendent. Et on peut dire c'est la pleine réalisation pour nous de ce qui est déjà notre position devant Dieu pour nous. Et dans ce sens, le premier état de la perfection qui nous a été présenté et le dernier, l'état final, se rejoignent. Entre les deux, il y a notre passage sur la terre, et il y a la vie de la foi qui tend précisément vers ce qui est placé devant nous comme l'espérance comme l'attente du croyant, en salut à ceux qui l'attendent, et nous tendons vers cette perfection. Ces remarques très simples me semblent importantes. Elles permettent d'éclairer aussi d'autres passages par lesquels l'ennemi s'efforce quelquefois de troubler les âmes. Par exemple, quand il nous est dit de travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement, s'étendre précisément, jour après jour, vers ce salut qui est au bout de la course et qui est l'arrivée à la perfection, quand nous serons débarrassés des corps qui appartiennent encore à l'ancienne création et que nous revêtirons par la puissance de Christ un corps semblable à son corps glorieux. Mais tout est fait pour cela. L'œuvre a été accomplie. La volonté de Dieu a été exécutée. Et celui qui l'a exécutée et qui a offert le sacrifice, et c'est celui et qui s'occupe maintenant de nous dans le ciel et dont l'intercession s'exerce, celle du grand souverain sacrificateur, de telle manière que nous puissions sur la terre tendre vers la perfection, travailler à notre propre salut, si nous étions laissés à nos propres forces, à nos propres ressources. Mais il ne serait pas question une seconde de répondre à de telles exhortations. Mais quant à ce qui concerne la position devant Dieu, la perfection dans laquelle, vis-à-vis de Dieu, nous nous trouvons, et sur la base de laquelle les exhortations peuvent nous être données, oh alors, l'œuvre est parfaite, l'œuvre est assurée, et c'est pourquoi, à cet égard, le grand souverain sacrificateur, le sacrificateur, Christ, nous est présenté comme assis dans le ciel. C'est extrêmement important. Ils sont ôtés, que Christ a ôté. Christ venant, et venant pour accomplir cette œuvre, ôte le premier, c'est-à-dire les exigences de la loi, c'est-à-dire l'ensemble de ces sacrifices, offrandes, holocaustes, sacrifices pour le péché, lesquels sont offerts selon la loi, mais dans lesquels Dieu n'a pas pris plaisir parce que cela a été offert par des pécheurs. Cela est ôté. Comme nous le disions, Dieu ne demande plus rien à l'homme, l'expérience a été faite que l'homme ne pouvait rien lui donner. Mais alors, il établit le second, et le second, c'est la volonté de Dieu qui est exécutée. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. L'incarnation, d'abord, nécessaire, c'est par un homme que la chose devait être faite, mais l'œuvre de l'expiation, c'est-à-dire le péché porté sous le jugement de Dieu, et le jugement de Dieu s'exerçant à l'égard du péché, voilà ce qu'est l'expiation. Et alors, Dieu, recevons ceux qui s'approchent, purifiés de leurs péchés, de toutes leurs souillures, par le sang d'aspersion.
Lorsque la première épître de Jean a été écrite, il y avait des gens à ce moment-là qui s'employaient de la part de Satan à nier l'incarnation. C'est pourquoi dans cette épître, insister sur le fait qu'il est venu en chair. Nier l'incarnation, c'est nier la rédemption, c'est tout nier. C'est jeter par terre tout le christianisme.
Tenir à l'incarnation en proposant Christ comme modèle, c'est précipiter l'homme dans un abîme encore plus grand, si on pourrait parler ainsi, que celui dans lequel il se trouve, lui rendant absolument inaccessible toute pensée d'être sauvé, parce que si l'on n'a pas pu obéir à ce qui n'était que de faibles figures, comment refléter le modèle parfait qui serait proposé? Et il fallait l'excellence d'une telle personne pour que le sacrifice d'elle-même fut agréé par Dieu pour le salut, pour la perfection d'être tel que nous. Mais d'être renouvelé maintenant, d'être nouveau. Il y a la nouvelle naissance, il y a un nouvel homme. Et alors c'est au nouvel homme que s'adressent les exhortations, que s'adressent les enseignements, et que s'adressent les avertissements. Tout ce qui nous est donné, en particulier dans les épîtres. Le vieil homme n'a rien à en faire. Il ne peut rien en faire.
Pense le privilège et la possibilité, bien que nous ne le réalisions sans doute pas beaucoup. Immense privilège de pouvoir considéré comme mort, il a été condamné. Il n'y a plus de question pour le vieil homme, pour un croyant. La seule affaire, c'est qu'il va faire mourir les actions du vieil homme. Mais autrement, son compte, à lui aussi, a été réglé par l'œuvre expiatoire.
Premier, établir le second, n'est-ce pas ?
Les délices, c'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. C'est la renonciation complète à sa propre volonté. C'est la citation du psaume 40, c'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. Ici, nous avons je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Notre frère, M. Tapernou, aimait dire que dans ces citations de l'Ancien Testament, que nous trouvons dans le Nouveau, et tout particulièrement dans l'Épître aux Hébreux, il y avait comme un enrichissement de la pensée divine. Ce sont ces expressions. Et nous pouvons bien penser, en effet, que Dieu a veillé sur cette version des 70, dans laquelle devaient être puisées les citations du Nouveau Testament. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ta volonté. Il y a là encore, dans une mesure, un choix. Mais voici maintenant, dans la citation que nous avons ici, « Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Je viens pour cela. Comme, et c'était bien ainsi, comme son but unique. Il venait pour cela. Je viens afin de faire ta volonté. Et il vient, renonçant à toutes ses prérogatives, je viens au Dieu. Il renonce absolument, il s'anéantit en tant que Dieu, il se laisse, comme on l'a dit tout à l'heure, il se laisse créer comme homme, il prend pas même la forme d'un homme,
mais il se laisse donner la forme d'homme et pour faire sa volonté. Une renonciation complète à la sienne propre. Cela éclaire, semble-t-il, le conflit de Gethsémané, quand je dis conflit, entre dans l'âme même du Sauveur, le combat entre ce qui devait être normalement la volonté de celui qui est saint et pur, reculé devant être fait péché, celui qui, vivant dans la communion de son Dieu, ne pouvait que reculer devant l'abandon de son Dieu, le recul de celui qui, étant la vie, ayant la vie en lui-même, avait comme perspective la mort. Mais non pas ce que je veux, moi, mais ce que toi tu veux. Il y a comme là comme un sursaut, mais aussitôt la reprise de cette attitude, reprise bien une fois pour toutes, quand il entre dans le monde, il ne vient dans ce monde, il ne vient là que pour cela, faire, ô Dieu, ta volonté.
Dans le libre et plein choix de quelqu'un qui était Dieu lui-même, de quelqu'un qui avait le droit, si on peut parler ainsi, nous sommes là sur un terrain qui est toujours ce terrain sacré où nous devons avoir les pieds déchaussés, nous comprenons bien que nos expressions sont infiniment au-dessous de la réalité divine, mais il était là dans la plénitude d'une liberté que l'homme n'avait pas, qu'un ange n'avait pas, un serviteur, quelqu'un qui est par état, par nature, serviteur, qui a quelqu'un au-dessus de lui qui a des droits, comme le Créateur en a sur sa créature. Il ne peut pas dire qu'il vient en pleine liberté avec une volonté libre. Ici, celui qui dit « Voici, je viens » est là dans la plénitude d'une liberté qui vient, si on ose parler ainsi, se mettre tout entière au service de la volonté éternelle. Voici, je viens.
L'insondable grandeur de la position que Christ a prise. Celui qui était l'égal de Dieu, l'obéissance de celui qui était l'égal de Dieu, revêt alors toute son excellence dans la réalisation de cette obéissance. C'était celui qui était l'égal de Dieu, qui, sans, comme on le disait tout à l'heure, non, pleine liberté, était venu pour faire la volonté de celui dont il était l'égal. C'est insondable. Mais il est très bon que nous pensions à cela, et en particulier, nous en reparlons sûrement, dans une scène telle que celle de Gethsémané.
Bien souligné qu'il est, il est dit en entrant dans le monde, en entrant dans le monde, et mais il dit tu m'as formé un corps, en entrant dans le monde tu m'as formé un corps, c'est le Fils ici-bas. C'est bien l'incarnation, on y a insisté avec raison, n'est-ce pas? mais se référant alors à la volonté éternelle qu'il connaissait et qu'il venait accomplir. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre, dans l'inscription, le titre, si l'on veut, du livre des conseils éternels de Dieu. Oui, cela nous échappe, nous comprenons bien, c'est au-dessus de notre intelligence, mais prenons la parole telle qu'elle nous est donnée. On dit quelquefois, dans les profondeurs de l'éternité passée, il y a eu cet entretien, ce que l'on appelle le dialogue, il n'y a pas proprement un dialogue, puisque c'est seulement le Fils qui parle, dans la connaissance de la volonté éternelle, et gardons-nous de dire que cela n'a pas de fondement, mais ici, c'est proprement en entrant dans le monde. Tu m'as formé un corps, je viens pour faire ta volonté. Et cela nous dit, encore une fois, la grandeur de la personne qui se présente là, Dieu manifesté en chair, mais selon le propos particulier de l'Épître aux Hébreux, le Fils dans lequel Dieu parle. Mais enfin, avec cette incarnation qui est le prélude, n'est-ce pas, et nécessaire de l'expiation, met enfin au temps de l'expérience de l'homme. Pour revenir sur des expressions que nous avons trouvées dans le chapitre précédent, en la consommation des siècles. C'était les siècles de l'homme. Les siècles où l'homme était mis à l'épreuve. Dieu avait, pour ainsi dire, tout essayé. Tout essayé pour manifester si l'homme était capable de faire la volonté de Dieu. Impossible. Tous ont péché. Alors, Christ est venu. Voici un temps nouveau. Et Dieu parlant dans le Fils. Le Fils est là sur la terre. Et en entrant dans le monde, l'homme qui vient accomplir la volonté de Dieu dit, voici, je viens pour cela. Je viens pour faire ta volonté. Et cette volonté a été accomplie. Elle était une volonté parfaite. Quelle était cette volonté éternelle de Dieu? Eh bien, c'était qu'il y ait des hommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Une œuvre à laquelle il n'y a pas à ajouter, et sur laquelle il n'y a pas à revenir, sur laquelle, par contraste avec tous les types de l'Ancien Testament, il n'y a pas à revenir, rien à être recommencé, tout était à recommencer autrefois. Les vœux de ton amour immense n'eussent pas été satisfaits sans voir au ciel en ta présence des hommes sauvés et parfaits. Tu voulus dès l'éternité nous introduire, ô notre Père, dans ta propre félicité.
Les vœux de ton amour immense. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Peut-être est-il nécessaire d'insister sur ce qui a été dit tout à l'heure en passant. Nous serions facilement tentés de dire, et on l'a eu dit, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, eh bien, toutes les Écritures de l'Ancien Testament parlent de moi et je viens pour les accomplir. Et en effet, Christ, venant dans ce monde, a accompli parfaitement tout ce qui était écrit de lui dans les Écritures. Il n'y a qu'à voir l'insistance que mettent les évangélistes à le souligner. Mais il y a plus que cela ici. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Ce n'est pas seulement les conseils de Dieu révélés dans sa parole, dans les Écritures de l'Ancien Testament, mais c'est ce qui a été décrété de tout temps, la pensée, on l'a bien dit, la pensée éternelle de Dieu, le rouleau du livre, ce sont les conseils établis et établis de façon bien nette, définitive, comme quelque chose consigné par écrit, les conseils éternels de Dieu. Je pense.
Que nous nous arrêtions encore un moment dans la méditation, mais aussi l'adoration devant cette personne qui connaissait la volonté de Dieu, c'était la sienne, qui est venue envoyée en ressemblance de chair de péché pour le péché. Tu es semblable à nous en toutes choses à part le péché. Tu t'es anéanti lui-même, trouvé en forme d'esclave, il est devenu obéissant, il est devenu obéissant. Pour lui, c'était une chose toute nouvelle que d'obéir. Il était l'être suprême. Il était en forme de Dieu, parole éternelle auprès de Dieu. Et puis, nous avons cette expression devant laquelle nous nous inclinons en adorant. Il a appris l'obéissance. Comment l'a-t-il apprise? Par les choses qu'il a souffertes. On peut rapprocher ce qui est aussi une transposition dans le langage du Nouveau Testament de cette expression, tu m'as creusé des oreilles, tu m'as formé un corps. On a pu dire que c'était la partie distinctive de son humanité. L'oreille, toujours en éveil. Et Ésaïe 50 nous le présente dans ce qui a caractérisé sa vie. Et même l'Esprit du Christ dit, parlant en son nom, tu me réveilles. Chaque matin, comme ceux qu'on enseigne, comme ceux qu'on initie. Il y a là des expressions qui nous courbent sur nos faces. Il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. On a parlé de Gethsémané, nous avons là, comme nous le savons bien, l'acharnement de Satan a tenté de le faire reculer dans le chemin de l'obéissance. Il présentait la mort à laquelle il allait livrer son âme. Il s'agit d'autre chose que la mort physique. Il allait livrer son âme à la mort. Et la volonté de Dieu, il la savait. Nous ne pouvions pas être sanctifiés autrement que par l'offrande de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Mais ce qu'elle a coûté à l'être obéissant jusqu'à la mort, ça s'est traduit par des signes extérieurs de saisissement d'un cœur brisé, mais dans les expressions d'une obéissance entière. Que ta volonté soit faite, non pas ce que je veux, moi, mais ce que toi tu veux. Soyons prudents aussi quand nous considérons tout ce qui est inclus dans cette affirmation de soumission entière, non pas ce que je veux. Il avait toujours fait la volonté de Dieu. Il avait été le juste parfait. Sa vie avait été l'offrande de gâteau parfaite. Et voici le moment où devant lui se présente comme très certainement l'ombre de la croix s'était souvent projetée sur son chemin, mais voici le moment décisif où l'ennemi doit être vaincu, battu sur son propre terrain. Mais la mort, c'est mon empire. En sorte que s'affirme devant nous la perfection de la soumission d'une telle obéissance. Non pas ce que je veux, mais moi, mais ce que toi tu veux. Nous méditerons ces choses éternellement. Le mystère insondable de la grâce sans borne et de l'amour, il nous sera présenté par l'Esprit Saint, étant là pour nous rendre sensibles et en même temps qu'intelligents, afin que les souffrances de celui qui a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, soient devant nous constamment comme un thème inépuisable de louange et d'adoration.
Sondable de la personne du Seigneur Jésus, qui, en entrant dans le monde, dit « Je viens au Dieu pour faire ta volonté », nous la trouvons en termes saisissants dans le psaume 40 lui-même, dont nous avons la citation dans notre chapitre, citation qui n'est rien d'autre que le fondement même de l'enseignement de l'apôtre. S'il n'y avait pas cette citation, s'il n'y avait pas eu la réalisation de ce qu'annonçait le psaume 40, toutes les assurances et toutes les bénédictions d'un prix infini que nous avons dans ce chapitre tomberaient, s'écrouleraient. Il fallait ce fondement annoncé déjà dans le psaume 40. C'est pour cela qu'il vaudrait la peine à la maison de relire le psaume dans son entier. Ce psaume 40, qui est un psaume messianique, qui est l'un des psaumes messianiques les plus émouvants que nous ayons. Les psaumes messianiques sont de deux ordres, chacun le sait. Les uns nous parlent d'un Christ qui devrait souffrir et mourir, les autres nous parlant d'un Christ entrant dans sa gloire et régnant. Mais les psaumes qui nous parlent de la souffrance et de la mort du Seigneur Jésus sont certainement émouvants, touchent nos cœurs et nous amènent à cette adoration profonde. Le psaume 40 est encadré par la pensée de la patience, l'attente patiente du Seigneur. Le premier verset nous dit ceci, « J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi et a attendu mon cri. » Nous avons parlé hier de cette douleur qu'implique une attente qui se prolonge. Le Seigneur l'a réalisé parfaitement, et le dernier verset exprime encore sa patience quand il dit, « Et moi, je suis affligé et pauvre, le Seigneur pense à moi. Mon Dieu, ne tarde pas, tu es celui qui me délivre. Mon Dieu, ne tarde pas. » La pensée de la patience encadre tout l'enseignement prophétique de ce psaume 40. Et l'on a pu dire que l'on avait dans ce psaume le tableau de l'œuvre parfaite de la patience. Et cette œuvre parfaite a été vu dans l'adorable personne de Jésus. Et chose insondable, incontestablement, c'est que le Seigneur Jésus, sachant ce qu'il attendait, sachant qu'il venait dans ce monde pour souffrir et pour mourir, pour connaître l'intensité de la souffrance qu'implique une telle patience, il peut dire à un moment donné résolument, en entrant dans le monde, « Voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. » Et si nous lisons quelques versets plus loin, nous voyons où cette volonté l'a amené. Nous venons de l'entendre sur la base de différents passages de l'Ancien Testament. Dans ce psaume 40, nous avons encore cette pensée. « Des mots sans nombre m'ont atteint, mes iniquités m'ont atteint, je ne puis les regarder. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon cœur m'a abandonné. » C'est là que le Seigneur Jésus a été amené dans cette totale soumission à la volonté de celui qu'il avait envoyé. Et nous disons avec adoration, « Non, Seigneur, ce ne sont pas tes iniquités, ce ne sont pas tes péchés, ce sont les miens, ce sont les nôtres qui t'ont amené là, un péché infiniment nombreux, et c'est à cause d'eux que tu as dû connaître même l'abandon de ton propre cœur, abandonné de ses disciples, abandonné de Dieu lui-même. Il a dû réaliser ce que implique cette parole, et mon cœur m'a abandonné. C'est là que le Seigneur est allé, jusque-là qu'il est allé, parce qu'en entrant dans le monde, il avait dit, « Je viens au Dieu pour faire ta volonté. »
Cette volonté, la volonté de Dieu, qui a été accompli par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, que nous avons été sanctifiés, que nous, les croyants, ceux qui appartiennent à Christ par la foi, ont été mis à part pour Dieu. C'est là la signification du mot sanctifié, mis à part pour Dieu. Il s'agit ici, évidemment, de la sanctification de position devant Dieu. Ensuite, il est insisté sur le fait que cette œuvre qui a été faite une fois pour toutes a eu pour un résultat que le sacrificateur est assis dans le ciel, témoignant par là que l'œuvre est achevée pour jamais, achevée quant à elle-même, et achevée quant à ses résultats, quant à la position et la relation avec Dieu de ceux qui sont ainsi sanctifiés. Ils ont été rendus parfaits à perpétuité par un seul sacrifice, par une seule offrande. L'offrande du corps de Jésus-Christ fait une fois pour toutes, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. L'offrande a été faite selon la volonté et ainsi nous avons été sanctifiés, mis à part. Mais mis à part pourquoi ? Parfait à perpétuité pour accomplir le service et particulièrement le service d'adoration vis-à-vis de Dieu, le grand sacrificateur est là, rendu parfait à perpétuité. Ce n'est pas, bien que cela soit impliqué, mais ce n'est pas pour l'éternité, mais à perpétuité, c'est-à-dire d'une manière ininterrompue. C'est par contraste avec ces sacrifices qui étaient renouvelés et qui pouvaient apaiser la conscience dans une certaine mesure, mais jamais rendre parfait, et encore moins rendre la conscience parfaite, purifiée, d'une manière continuelle, ici à perpétuité. C'est une chose constante. Nous, dans la réalisation, dans la jouissance de cela. Et nous sommes aussi inégaux que possible, nous avons des hauts et des bas. Mais quant à la chose elle-même établie pour Dieu, c'est un niveau toujours égal. C'est à perpétuité. Et alors, quand, encore une fois, quand ce sera la réalisation totale dans nos corps glorifiés, alors ce sera pour l'éternité. Et puis, alors, l'Esprit Saint rend témoignage de la chose. Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités, de telle sorte qu'il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi, une seule offrande, une offrande faite une fois pour toutes, et une offrande après laquelle rien d'autre n'a à être offert. Dans les versets 19 à 22, tirez la conclusion. Si l'âme a reçu quelque chose, l'application de toute la valeur du sang de Christ, alors elle est heureuse de répondre à ce qui est une invitation plus qu'une exhortation, ce qui est en réalité la constatation du privilège, de la prérogative qui est maintenant celle de tout croyant, sans exception. Alors, ayant donc, frères, approchons-nous. Nous n'avons pas le temps maintenant de nous arrêter sur ces choses, mais quelle conclusion magnifique à toute cette partie doctrinale de l'Épître aux Hébreux qui culmine dans ces chapitres 9 et 10, nous présentons la personne, l'œuvre, le sang de Christ.
Sans entrer dans...
Il y a le temps encore.
On peut pourtant souligner l'insistance de l'Esprit Saint, ayant, j'ai dit trois fois, il y a l'affirmation que ceux qui sont du Christ, ceux qui lui appartiennent, possèdent de la part de Dieu tout ce qui découle de son œuvre. Et cette invitation, qui est presque une injonction, comme on en trouve beaucoup dans l'Épître aux Hébreux, elle se base sur le fait que ceux qui sont invités à s'approcher ont pour eux-mêmes, devant eux, un voile déchiré, la chair offerte, l'humanité parfaite du Christ, laissée dans l'amour et dans l'obéissance. Ils ont devant eux un chemin nouveau et vivant. Christ l'a consacré au travers du voile. Pensez bénie quand ils sont invités à s'approcher par le sang du Christ. Ils ont un grand souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Il est là à présent, dans sa gloire. Celui qui a porté comme homme dans le ciel quelque chose tout entièrement sa gloire comme homme ressuscité et glorifié. Il est là dans l'accomplissement de son service, ayant le chemin nouveau et vivant, ayant le grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Qu'est-ce qui nous manque ? Eh bien, qu'il nous manque un fait que nous avons, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'eau pure. C'est pas un effort à faire pour venir à la cuve des reins, nous en disions un mot. Ce n'est pas la nécessité de maintenir, ce n'est pas ce qui est vu ici, ce n'est pas la nécessité de maintenir cette pureté, cette netteté, comme dit le Seigneur. Vous êtes tous nets à cause de la parole que je vous ai dite, mais c'est le fait que nous avons cela comme privilège de la foi. Ayant donc, frère, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints, ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience, c'est l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Après son effusion sur la croix, c'est l'application par la foi à toute âme croyante. Et le corps lavé d'eau pure, non pas les mains et les pieds. Ce que Pierre demandait dans tout l'impromptu de sa nature. Bon, Seigneur, alors pas seulement mes mains et pieds, mais aussi ma tête. Le Seigneur lui dit, mais c'est une chose à laquelle tu as part et tu en auras la conscience. Eh bien, nous avons ces choses comme le privilège de la foi et le partage de nos cœurs en recevant ce témoignage de l'Esprit-Saint auquel on vient de faire allusion, ayant la certitude que Dieu pleinement satisfait a fait asseoir à sa droite la perpétuité pour l'éternité, celui qui a été l'auteur de notre salut et qui maintenant paraît pour nous devant la face de Dieu.
Liberté d'entrer dans les lieux saints nous est acquise d'une façon définitive aussi bien que les autres faits que nous avons considérés. Et elle peut nous être donnée toujours parce que Dieu a été parfaitement glorifié par l'œuvre de Christ. Il ne peut rien refuser à ceux qui viennent à lui par ce chemin-là. Voilà la position. Pratiquement. Et les passages parlent ainsi comme souvent dans l'Écriture. Dieu place donne souvent les vérités dans leur caractère absolu, qui est la seule manière de les bien présenter. Les vérités, les pensées comme Dieu pense. Et il nous invite toujours à nous élever à son niveau. Il ne tolère pas, nous ne trouvons pas de tolérance à cet égard. Bien que il sache mieux que nous que nous ne sommes pas souvent à la hauteur de ses pensées, mais la présentation de la vérité n'est réelle que quand elle est selon la pensée de Dieu, en tout point. Et nous trouvons cela ici. C'est un droit absolu et pour l'éternité. Mais, en attendant, cette assurance n'exclut pas, bien au contraire, des exercices et des passages dans le Nouveau Testament sont là pour nous le rappeler. Lorsqu'il est parlé de la sacrificature spirituelle que constituent les saints, pour offrir des sacrifices spirituels, ces déclarations sont encadrées d'exhortations avant et après. Et nous nous connaissons assez, en tout cas sans nous connaître suffisamment, pour nous rendre compte combien de la nécessité de ces avertissements. Et que, dans la pratique, quand nous nous présentons ainsi, et le dimanche spécialement pour accomplir le service, Nous savons bien qu'il n'est pas un frère, ni une sœur. Craignons dans quelque mesure le Seigneur et l'aimant donc, car si on l'aime, on le craint. Et qu'il nous soit exercé au préalable pour que la réalisation de cette position-là soit effective dans une bonne mesure et à la gloire de Dieu. Et que nous jouissions de cela d'une façon effective. Jouissions de ce que représente l'entrée dans les lieux saints, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, par une anticipation. Nous ne réalisons pas par un effort de nos esprits, c'est par la grâce, la puissance de l'esprit agissant dans les saints et au milieu d'eux, qu'il est rempli des choses qui sont du sanctuaire. Et il est impossible d'être dans le sanctuaire de Dieu sans avoir le cœur plein de louanges. Et déjà maintenant, et il est impossible de présenter des louanges agréables à Dieu sans réaliser le sanctuaire. Cela exige un exercice de tous, en particulier des plus anciens, des plus responsables. Nous devons bien cela au Père, et nous le devons bien à celui qui nous a déjà ouvert l'accès jusque dans la présence de Dieu. Je désirais dire un mot encore sur Gethsémané. Le Seigneur a été l'objet spécial des attaques de Satan de deux manières. L'une, la première, à son entrée dans son service, au désert. Il fallait qu'il fût mis à l'épreuve, en un sens pour montrer s'il était à la hauteur de la tâche qui consistait à réaliser une carrière opposée à celle d'Adam. Il fallait que sa fidélité se montrant dans toutes les conséquences du péché sur la terre. Il devait être mis à l'épreuve devant Satan. Et Satan a cherché là à le détourner par des choses agréables. Il lui a présenté le monde. Il n'a pas fallu tant que cela à Ève pour tomber. Et plus tard, à la croix, ce même monde que Jésus a refusé, s'est ligué contre lui tout entier. Le monde entier était représenté dans sa haine contre Dieu, était représenté lors de la scène de la croix. Avant cela, Après le désert, il y a la scène de Gethsémané, où le Seigneur est encore éprouvé, et il fallait qu'il le fût. Et la gloire de Dieu l'exigeait. Il a été éprouvé alors, non pas, Satan n'a pas cherché à le détourner par des choses agréables, comme la chair les aime, mais par des choses effrayantes. Et là, nous pouvons tous, toujours, quand nous entrons sur ce terrain, demander au Seigneur qui nous donne de réaliser un peu ce que c'est que d'avoir les pieds déchaussés. Il avait son Père avec lui à ce moment-là, Gethsémané. Il l'avait pour lui. Mais ce qu'il y a d'insondable, c'est que, comme on l'a dit, ici je m'abrite derrière des paroles sûres, autant qu'elles peuvent l'être, de la part d'hommes sérieux, mais non inspirés. Gethsémané à trois reprises. Pourquoi était-il ainsi dans l'angoisse? Parce que, étant donné la sainteté, la perfection de sa nature, l'horreur du mal était en lui en rapport avec la perfection de cette nature. Nous n'en sommes pas un péché près, parce que nous y sommes habitués. Mais le Seigneur lui-même, une seule pensée d'indépendance était pour lui insupportable. Et s'il y avait eu en lui une,
un seul sentiment de ce genre, il n'y avait plus de salut. Personne pour glorifier Dieu. Alors, avant, il savait devant quoi il allait. Et avant de s'engager dans le chemin trois fois, et c'est ici que je répète ce qui a été dit, trois fois, il s'est adressé à son père pour sonder sa volonté. Trois fois, pour sonder si c'était bien la volonté de son père qu'il prenne la coupe. Et ce n'est pas de Satan qu'il l'a prise, c'est du père. C'est-à-dire que c'est dans une obéissance parfaite qu'il a accepté de prendre cette coupe, et on a même pu dire aussi qu'à ce moment-là, pour lui, le combat était terminé. Là, maintenant, la chose était réglée, il connaissait la pensée de son père, il prend la coupe, et pour ainsi dire, comme cela a été dit, en la tenant dans sa main, il va sur la croix pour la boire. Alors, pendant les trois heures sombres de la croix, s'est passée une scène qui, dont la profondeur et la sonalité sont bien marquées par le fait que les ténèbres la voilaient à tous les regards. Là, nous touchons au point suprême de l'accomplissement des activités de grâce de Dieu dans la rédemption. Cela s'est passé exclusivement entre Dieu, entre le Père et son Fils, entre Dieu qui a traité Christ comme le péché même. Non seulement il a porté en son corps nos péchés sur le bois, dans son corps, mais il a été traité par Dieu lui-même comme le péché méritait de l'être, et dans l'acceptation de cette souffrance, il a alors glorifié Dieu d'une telle manière et pour l'éternité que tous les conseils de Dieu étaient désormais assurés. Puissions-nous tous les dimanches refaire avec toujours plus de crainte et de sérieux ce chemin qui va de Gethsémané à la croix.